Le grand oral RTBF le soir.
Madame, Monsieur, bienvenue dans le grand oral qui vous propose aujourd'hui de prendre une tasse de café avec un ingénieur philosophe, de quoi lutter contre l'assoupissement intellectuel. Et cette tasse de café, c'est avec vous que nous allons la prendre, avec vous, Luc de Brabander. Bonjour.
Bonjour.
Cette comparaison entre philosophie et café, vous l'empruntez à Alexandre Lacroix, c'est le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. La philo, c'est du café, c'est dans votre dernier livre, le dernier livre qui est intitulé Homo Informatics. Vous êtes en effet l'auteur de nombreux ouvrages, certains consacrés à la stratégie d'entreprise et à la créativité. Avec vous, nous allons revenir sur le malaise social qui s'est exprimé cette semaine, comment concilier travail et bien-être. On fera appel à votre imagination, à la créativité et puis aussi à l'innovation. Ce sera avec vous, Benoît Julie, chef du service économique au Journal Le Soir.
Oui, bonjour. Vous êtes spécialiste de la créativité, de l'innovation. Vous participez d'ailleurs cette semaine à un colloque dédié à l'avenir de l'industrie. Et justement, on va essayer de faire le lien entre ces trois concepts en essayant de s'interroger sur la capacité d'innovation de nos industries aujourd'hui. Est-ce qu'il faut leur laisser l'abri, dans quelque sorte, la seule responsabilité de l'innovation, ou bien est-ce qu'il faut que cette innovation soit dédiée à un certain nombre d'objectifs stratégiques qui sont quand même très très nombreux? Et donc en filigrane, on s'interrogera aussi sur la stratégie ou l'absence de stratégie industrielle de l'Europe.
Vous êtes aussi professeur à Paris et à l'Université catholique de Louvain, une profession comme tant d'autres touchée, impactée par les technologies numériques. Et c'est là que vous, le philosophe, vous proposez d'inventer un humanisme numérique pour que la révolution du même nom profite à toutes et tous. Ce sera avec vous, Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information à la RTBF.
Et oui, là où on va parler avec Benoît des entreprises, on va peut-être parler des individus ici. Mmh. Comment se placent-ils face à cette révolution numérique, informatique, avec des mots comme algorithme qui font à la fois très peur et qui deviennent presque des mots manichéens, tels quand on les utilise. Or, ces algorithmes rythment déjà un certain nombre de nos usages personnels, les algorithmes de Facebook, les algorithmes de Twitter, les algorithmes des pages des médias que nous recevons. Et bien tout ça, on va pouvoir en parler, voir s'il faut s'en effrayer, s'en réjouir, ou comment les adopter.
Voilà le sommaire de ce grand oral. Merci Benoît, merci Jean-Pierre. C'est le grand oral de Luc de Brabander. Nous sommes ensemble pendant 40 minutes en radio sur la première, en télévision sur la 3 et puis aussi sur notre plateforme RTBF Ovio. Avec une semaine très sociale, hein, jeudi, vendredi, marquée par des grèves dans la partie sud du pays, Luc de Brabander, des travailleurs qui en ont le ras-le-bol, c'est ce que nous a dit Robert Verteneuil de la FGTB, mercredi dans Matin Première. Alors vous qui travaillez souvent avec des chefs d'entreprise, qui aimez l'entreprise, ce ras-le-bol, est-ce que vous le comprenez ?
Bien oui, je le comprends parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, on sent bien des blocages. Moi, quand je vois le patronat, le syndicat, je dirais les entreprises, ils sont dans un rapport de force où il n'y a finalement plus beaucoup de choses qui bougent. Ils me font un peu penser aux sumo, là. Ces Japonais, ils sont énormes. Et donc, on voit bien que ça ne va pas. Les grèves, j'étais à Liège, justement, et j'étais dans un restaurant où il n'y avait personne. Et le type, c'est un indépendant. Il me dit, voilà, je suis pénalisé par la grève. Est-ce que c'est vraiment lui que les syndicats voulaient pénaliser? Donc, ça ne va pas.
Et comme dans un match de sumo, pour reprendre votre expression, qui doit donner le mouvement, essayer d'entraîner l'autre dans une dynamique positive, ou alors pour le mettre carrément sur le tatami,
à plat? J'ai envie de dire, ça, c'est vraiment la bonne entame. Parce que, bon, on va dire que c'est un jeu dans lequel ils sont, au sens large, ils sont dans un jeu. Alors, dans tout jeu, il y a moyen d'inventer des nouvelles manières. C'est comme aux échecs, on invente une entame que personne n'a jamais. Ouais, c'est pas mal, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le jeu lui-même. Le jeu lui-même. Ce jeu a 70 ans. Il a 70 ans, il date de ma naissance. C'est après la guerre, des gens qui sont tous morts ont réinventé la Belgique. On a créé des trucs extraordinaires. On a donné le droit de vote aux femmes, au passage. On a fait des choses vraiment. On a inventé la concertation, on a inventé la sécurité sociale. Bon, et pour faire ça, on a dû aussi inventer des catégories, des principes, des règles. Et moi, je crois que c'est là que ça coince. Dans le jeu lui-même, je ne crois plus qu'il y a moyen. Il y a encore moyen un petit peu. Mais c'est le jeu en tant que tel qu'il faut réinventer. Prenons des exemples simples. Je suis pensionné. C'est pas vrai. Je suis mis dans une catégorie qui est pensionnée. Je travaille. Alors pourquoi ? C'est pas normal. Et si c'est pas normal, c'est le début des mauvais fonctionnements. Un exemple qui a rien à voir. IBM. Quand IBM est rentré dans le marché en Belgique dans les années 58-59, on a mis IBM dans la catégorie des fabrications métalliques, avec Cockerill et avec d'autres. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont inventé le système belge en 48, l'informatique n'existant pas, ne pouvaient pas faire une catégorie de ce type-là. Et donc IBM arrive, où est-ce qu'on le met ? Etc, etc. Et donc on voit bien que les catégories, le jeu lui-même a 70 ans. En 70 ans, tout a changé. Il y avait 2,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, quoi, 7,5 milliards fois 3. On vit quoi, 10, 15 ans de plus. On voit, tout a changé, non seulement dans les faits, mais aussi dans les valeurs. Dans les valeurs. Et bon, ce que mes enfants pensent, ce n'est pas du tout ce que mes parents pensaient. De manière très concrète, moi, j'étais banquier. J'étais banquier dans les années 70. J'étais jeune stagiaire et on rêvait de devenir quoi ? Le directeur des crédits. Je me souviens, lui, il ressemblait à Piccoli, il s'appelait Monsieur Nellis avec des cheveux blancs. Et on se disait tous, jeunes stagiaires, nous, si on n'est pas directeur des crédits un jour, on a raté notre truc. Vous allez dans une banque aujourd'hui, qui est la star ? C'est le trader. C'est le trader. Les jeunes, ils veulent être traders dans la salle des marchés et faire des trucs. Et c'est très symbolique de beaucoup de choses, parce que ce sont des modèles mentaux complètement différents.
Certains pourraient dire, le jeu est là.
Oui.
Renversons le jeu, changeons d'échiquier complètement. C'est ça que vous proposez ?
Certaines règles, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, d'autres vont s'en charger. Et on le voit bien dans un dossier particulièrement douloureux qui sont les taxis. Eh bien, on a changé les règles pour eux. Moi, je suis beaucoup à Paris. Ce sont des gens qui ont payé 200, 250 000 euros pour acheter le droit de faire un taxi et qui se voient tout à fait dépassés parce qu'on a changé les règles. Et ça, c'est pas juste.
On y va comment ? Par souplesse, par dérégulation, par job, avec derrière parfois des idées de petits jobs qui sont plus adaptés, qui sont plus souples. C'est quoi ?
On y va en commençant par se mettre à trois, à réinventer un système
avec des nouvelles catégories.
Je suis un fan de l'allocation universelle de Philippe Defay et Philippe Van Parijs parce qu'ils montrent le chemin. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est vrai, mais ils montrent le chemin. Il faut inventer des nouvelles catégories. Et je reviens avec mon trader. L'homme de crédit, c'est un homme qui pense à 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui a un projet. L'homme de trader, il n'a pas de projet. Et le monde aujourd'hui, on peut extrapoler. J'ai même en politique. Les hommes politiques de ma jeunesse, c'était des hommes long terme. Moi, je me souviens, Schuman, Jacques Delors, mon père me disait, il faut faire l'Europe pour éviter la guerre. Aujourd'hui, les hommes politiques, ce sont des traders. Ils n'ont pas de projet. Ils rentrent, ils font des coups. Et le sommet, évidemment, c'est Trump qui dit lui-même, je suis un trader. Eh bien, un monde où les traders deviennent des hommes politiques ne peut apporter aucune solution, ni au travail, ni à l'emploi, ni à rien. Il faut revenir à des projets.
Ça veut dire aujourd'hui, Luc de Brabander, que les syndicats, c'est une catégorie, les chefs d'entreprise, c'est une autre, et que les uns et les autres n'ont pas évolué en 70 ans ?
Mais forcément, on reste d'un côté ou d'un autre. Mais je dirais, aujourd'hui, vu de l'extérieur, la FEB ou les syndicats et les partis politiques, ce sont des endroits où on négocie, mais ce ne sont plus des endroits où on pense.
On n'est pas assez créatif, et c'est là que vous pensez que chacun doit amener créativité ensemble.
Oui, parce que le système belge a été construit ensemble. Je me souviens bien, c'est à l'époque du père Armel, etc. C'est ensemble. Et il me disait, c'est parce que je me suis mis avec des syndicalistes, on a ensemble fait quelque chose.
Mais ça, on sortait d'un choc fondamental, qui était une guerre, qui était des morts. Il fallait quelque part renvoyer un peu comme après la guerre 14-18, renvoyer vers ceux qui étaient devenus de la chair à canon les moyens d'existence.
Oui.
Est-ce qu'on en est là maintenant ? Est-ce qu'on a cette possibilité-là de redistribuer ? Parce que c'était une solide redistribution. Et après 14-18 et après 40-45 des richesses.
Heureusement qu'on n'a pas la guerre. Moi, j'ai vécu 70 ans en paix. Je crois que c'est jamais arrivé dans le monde.
Enfin, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est le chômage, par exemple, ou la pauvreté.
Moi, je crois. Il y a une forme de guerre. Bon, il n'y a pas des morts et des blessés, mais il y a le chômage. J'étais invité chez vos collègues de Charleroi. Bon, c'est Marcinelle, le studio de la RTB.
Oui.
Et donc, c'est à 11h du matin, j'arrive bien à l'heure. Je vais prendre un café, tout près. Et je vais dans le café, qu'est-ce que je vois ? Des jeunes de l'âge de mes enfants. À 10h du matin, je dis, mais ça va pas ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, ils jouent au billard, et j'ai commencé à parler avec eux. Et j'ai eu un vrai choc. Mais c'est scandaleux de la part de ma génération d'en arriver à donner ça à la génération qui suit. C'est inacceptable. Parce que le chômage des enfants, moi, il m'est douloureux. Et si on ne donne pas un sens des projets à cette génération-là, avec les migrants, on va rajouter une couche, je suis inquiet.
Alors il y a une redistribution du travail qui peut se faire par la réduction du temps de travail. Oui. On a un parti socialiste qui propose la semaine des 4 jours. Oui. C'est une piste.
Mais on revient à mon premier point. Ça suppose que le temps mesure le travail. Et je crois qu'il y a un siècle, on peut dire, l'écrasante majorité des gens pouvaient dire « le temps mesure mon travail ». Aujourd'hui, de moins en moins. Je connais beaucoup de gens qui ne considèrent pas du tout le temps comme une mesure de leur travail. Et donc, si on légifère par le temps, on risque d'avoir des dysfonctionnements et on doit inventer des nouveaux instruments de mesure. C'est comme le PNB. Continuer à mesurer l'économie par le PNB. Le PNB augmente avec les embouteillages.
C'est le produit national brut, donc c'est ce que font les Belges en Belgique et dans le monde.
Hein. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi, il augmente avec les embouteillages. Donc, il a bien augmenté hier. Donc, ça c'est sûr. On sent bien que le PNB n'est plus le bon instrument de mesure. Exactement comme le temps n'est plus la meilleure mesure de mesurer le travail. Et c'est ça, inventer un modèle. C'est inventer des hypothèses de travail.
Alors, une des hypothèses avec lesquelles on doit bien composer, Luc de Brabander, c'est l'austérité. On est dans des politiques d'austérité aujourd'hui en Europe. C'est possible de concilier bien-être et travail dans un contexte comme celui-là?
Ah, je crois. Moi, je crois. Et je dirais de manière conceptuelle, la créativité va avec la contrainte. Regardez dans l'art, la contrainte dans le théâtre grec, dans la musique baroque, dans la littérature. Regardez un alexandrin. Comme c'est contraignant.
Mais donc, l'austérité, ce n'est pas un problème pour vous.
C'est-à-dire que c'est une contrainte. Je n'ai pas dit que c'est un problème, mais c'est une contrainte. Mais il ne faut pas croire que la contrainte est nécessairement l'ennemi de la créativité. Ceci étant dit, le fait d'avoir moins de moyens, bon, ça nécessite plus de créativité. Mais moi, je suis un spécialiste de l'histoire des sciences. Par exemple, Galilée, quand on voit ce qu'il a fait sans vidéo, sans laser, sans chronomètre, c'est qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et ça, alors là, ça, c'est la créativité.
Parce qu'aujourd'hui, là, on voit de plus en plus dans les entreprises énormément de burn-out, par exemple, ce qui montre bien que le bien-être au travail est quelque chose qui est malmené par cette lutte de compétitivité, de productivité et d'austérité.
Oui.
Et là, c'est quoi votre réponse? Comment on peut sortir de cette problématique?
Mais je dirais, quand on me demande mon métier, philosophe d'entreprise, de le définir, je dis ceci. C'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Dans les entreprises, et je me tourne un peu vers vous, dans les entreprises, il y a une partie où il y a des chiffres. L'informatique, les stocks, la comptabilité. Et être rigoureux, ben, on peut faire, si on est là. Mais il y a une partie énorme où il n'y a pas de chiffres. Bon, le stress, l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'image de marque. Et très souvent, les patrons sont totalement au dépourvu parce qu'il n'y a pas de chiffres. Et le stress fait partie de ça. Et la philo, pour moi, en entreprise, c'est comment être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres. Moi, j'ai vécu France Télécom, il y a eu une vague de suicides, c'était horrible. J'ai vu des patrons complètement dépourvus. Et je crois que la philo, c'est retrouver les idées claires et distinctes, notamment quand il n'y a pas de chiffres.
D'autres pourraient quand même rétorquer que c'est parce que, justement, il y a beaucoup trop de chiffres qu'on est, pour l'instant, assez malheureux en entreprise. Parce qu'il y a des contraintes très, très fortes qui sont là et qui ne génèrent pas nécessairement de la créativité. Mais d'autres formes de comportement.
Je suis tout à fait d'accord, mais il y a une partie de la réflexion qui n'a pas lieu parce qu'elle n'est pas chiffrée ni chiffrable. Et quand on revient à la question de départ, la négociation, c'est plus 1%, 3%, etc. Il y a des autres choses, par exemple la fiscalité, c'est un exemple. Alors on essaie la fiscalité, etc. Je crois qu'on peut aider les entreprises de manière totalement différente. Par exemple, la mobilité. Est-ce qu'on aide une entreprise en augmentant 10% sa mobilité? Tout le monde arrive 10% plus vite, les camions roulent mieux. Rien que voir ça, il faut casser le lien subside égale argent, aider égale argent, que ce soit les entreprises ou les travailleurs. Il y a d'autres manières de les aider.
La grève, les syndicats, ça reste une arme qui est souvent mise en avant, même si la FGTB lance aujourd'hui, lancé cette semaine une nouvelle campagne. Vous qui êtes un spécialiste de la créativité, il n'y a vraiment pas moyen de faire autre chose qu'une grève?
Ah ben j'en suis sûr, j'en suis absolument sûr. Bon, moi je suis un usager des transports en commun depuis 45 ans. Je prends le train pratiquement tous les jours depuis 45 ans et je connais tous ces gens. Et ils sont même d'accord avec moi. Ils disent, mais je lui demande pourquoi? Vous voyez bien, vous m'embêtez moi, je suis avec vous. Et alors je vois bien dans le regard du contrôleur, oui, il a raison, hein. Ils sont presque gênés de ce que les syndicats leur imposent. Ou alors,
oui, mais il y a autre chose que le rapport de force dans une société comme la nôtre, parce que bon, on sait qu'annihiler le rapport de force, ça peut aussi parfois dire que finalement c'est la loi, c'est le plus fort qui l'emporte parce qu'il n'y a plus personne qui peut le contester.
Je crois que le rapport de force, on ne doit pas y échapper. Il y a bien sûr ça, mais changer les règles du jeu dans lequel il s'exerce, c'est ça que je veux.
Oui, mais est-ce que dans une société telle qu'on est maintenant, s'il n'y a pas à un moment quelqu'un qui est affecté, y compris au niveau de la richesse, de la productivité, de la production, on peut être entendu?
Non, malheureusement pas, mais je crois qu'il y a moyen de le faire de manière plus efficace et donc moins pénalisante pour ceux qu'on n'a même pas envie de pénaliser.
Donc autrement dit, pas de grève, des transports gratuits?
J'avais envie de le dire, c'est sûr. Moi, je serais je serais gréviste, je veux dire, ben, prenez le train, vous ne payez plus rien, on ne contrôle plus rien, il y aurait trois fois plus de monde dans les trains. Et la situation des trains est inacceptable aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Et c'est très symbolique, regardez la gare du Midi, vous regardez les voies 4, 5, 6 et les voies 18, 19, 20, 21, celles qui vont dans le Hainaut, à La Louvière, à Charleroi, à Tournai, etc. Et ben, vous avez tout compris.
Ouais, le TGV d'un côté.
Vous avez tout compris, et depuis 10 ans, l'écart, c'est que ça croît, le 4, 5, 6 est de plus en plus propre. On voit des hôtesses, des petits chapeaux, etc., petits cafés et tout. Vous avez vu le quai numéro 20, l'escalator étant la dalle qui bouge, j'en starte les pieds. Et ben voilà, c'est la gare du Midi, moi, qui symbolise le problème. Ce monde casse en deux. Ceux-là vont de mieux en mieux, ceux-là sont de moins en moins bien. Et forcément, un jour, il y aura la guerre entre la voie 18 et la voie 14, et la voie 4.
Vous pensez ça? Oui, vraiment, le mot guerre.
Oui. Mais c'est sûr, il y a des choses qui sont inacceptables. Je reviens aux jeunes que j'ai vus dans ce café, là, près de la RTBF Charleroi. Mais on a de la chance qu'ils ne soient pas plus fâchés, quoi. Et bon, peut-être qu'ils jouent au billard et qu'ils sont encore, et qu'il y a des gens qui les encadrent. Mais vous imaginez, à 30 ans, ne pas avoir un projet de vie, voilà, un truc que l'on construit. Et peut-être que, pour terminer ce truc-là, moi je pose souvent le mot projet et le mot structure. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, le patronat, le syndicat et les gouvernements, ce sont des structures. Ce sont les projets qui motivent les gens. L'Europe, c'est la même chose. L'Europe est une structure. Est-ce qu'on peut encore dire quel est le projet de l'Europe? Mon papa me disait, il faut faire l'Europe pour éviter la guerre. Ben, c'est un projet. Bon, aujourd'hui, vous allez au Schuman et vous demandez aux gens quel est le projet de l'Europe. On ne vous répond même plus. Et c'est très grave.
Un grand espace de circulation, des gens, des produits.
Ça n'est pas un projet. C'est exactement là le problème. Et donc, on voit des gens. Alors, il y a une série de conséquences. D'abord, les gens n'ont plus le moral. Ils sont un peu tous cafardeux là-bas, même s'ils sont très, très bien payés. Et surtout, il manque un instrument de décision. Parce que, par exemple, la Turquie, est-ce qu'elle doit rejoindre l'Europe? Quel est le projet? On ne va pas dire oui ou non à la Turquie en fonction de la structure. On a 27 pays, on va monter à 28, il faut dormir. Non, quel est le projet? On va par là, la Turquie est bienvenue. On va par là, la Turquie n'est pas bienvenue. Et tant qu'on n'a pas le projet, non seulement on a les gens démotivés, mais on ne sait plus décider. Et on voit le résultat.
On va poursuivre, Luc de Brabander, sur le thème de l'innovation. Je rappelle que vous êtes ingénieur et philosophe d'entreprise.
Le Grand Oral, RTBF le soir.
L'innovation, je vais esquisser une définition et vous me compléterez, c'est ce qui permet à une entreprise d'améliorer ses produits, ses services, d'en faire davantage et mieux. Elle permet de rester compétitive, mais elle a aussi ses limites. Il faut sans cesse réinventer, évoluer, changer, être créatif. Vos réponses et vos commentaires, c'est avec vous, Benoît Julie.
Alors, vous faisiez allusion tout à l'heure à un monde qui se casse en deux. Donc, si je vous cite Google, Amazon, Facebook, Apple, les fameux GAFA, vous pensez comme moi aux États-Unis, à la Silicon Valley, vous ne pensez pas à l'Europe. Donc, est-ce qu'on est, sur base de ce constat, en train, nous, de rater ce train de l'innovation?
Disons, il faudrait quand même se ressaisir. C'est marrant parce que GAFA, moi j'étais aux États-Unis, personne ne comprend. Quand on dit GAFA, on parle des Américains, mais ce mot n'existe pas aux États-Unis. Donc, c'est déjà une espèce de rapport assez étrange. Et bon, c'est sûr, moi, j'étais informaticien dans la première partie de ma vie. Il y avait Siemens, Olivetti, Nixdorf, Logabax, Bull. Enfin, il y en avait plein. Ils ont tous disparu. Donc, bon, et c'est d'autant plus dommage qu'on a eu des idées extraordinaires. Le Minitel, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, il y a environ 30 ans, c'était Internet avant la lettre. Et donc, on a de quoi être un peu tristouné. Mais bon, regardons devant. Qu'est-ce qu'on va faire dans la situation aujourd'hui? Ben, il faut se ressaisir à tous les niveaux. Et peut-être, je reviens moi, à mon rôle de philosophe, en fait, c'est quoi la créativité? Si vous voulez, on va reprendre le GAFA.
Justement, comment est-ce qu'on suscite cette créativité dans les entreprises? Parce que c'est un peu ça, c'est votre métier aussi.
C'est mon métier, mais on va prendre le A de GAFA, Apple, le deuxième. Moi, je ne sais pas si c'est le deuxième, enfin bref, on va dire Apple. En fait, prenons un exemple simple, iTunes, iPod, ce truc-là. Bon, si vous regardez comment Apple a fait pour le développer, vous apprendrez beaucoup sur la créativité. Mais vous apprendrez beaucoup plus si vous comprenez comment Sony a réussi pour ne pas inventer l'iPod. Ça, c'est dingue, parce qu'il l'avait.
Bon. Allez, expliquez-nous.
Ah bien, quand j'avais, il y a 30 ans, Sony avait inventé un truc qui s'appelait le Walkman. Bon, bon, ça dépend évidemment de l'âge, peut-être des enfants.
Le baladeur, en français.
Qu'est-ce que c'était? Une boîte qu'on mettait à sa ceinture, deux trucs et des écouteurs dans les oreilles. C'était le Walkman, c'était le iPod. Bon, c'est fou. Imaginez un brainstorming classique chez Sony. Qu'est-ce qu'on a inventé? Personne ne va dire ça puisqu'on l'a. Qu'est-ce qu'il fallait? Autre chose. Il fallait voir autrement le monde de la musique. Et donc, par exemple, casser des hypothèses, et on revient au début de l'émission, par exemple, l'hypothèse que les chansons se vendent par paquet de 12. Ça, ça allait avec les petites cassettes du Walkman, ça va plus, sur le, etc., etc. En fait, Sony avait l'idée et a raté l'innovation. Et on voit bien la différence. Hein. C'est, on voit bien la différence, on ne parle pas du tout de la même chose.
Idem avec Kodak, qui avait le numérique. Qui avait...
Kodak, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Quand j'avais 20 ans, Kodak avait 60% de part de marché. Kodak et photo, c'était presque des synonymes, vous vous rappelez. Ils ont tout inventé. Ils ont inventé la photocopie, bon, type à partir chez Xerox. Le photo instantané, ça a fondé Polaroid. Ils ont inventé, et vous avez raison, le CD. Ils étaient les premiers sur le CD-ROM. Kodak, le premier. Vous imaginez l'avantage que vous avez. Ils ont tout, ils ont rien fait. Ils ont perdu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas changé leur manière de voir. Ils ont vu le CD-ROM comme des chimistes. Des chimistes, magnifique molécule, oh là là, quel beau truc. Non. Il fallait voir le CD-ROM comme un vecteur d'information, de musique. Et c'est d'autres qui l'ont pris. Et donc, ce qui montre bien que les idées en tant que telles ne suffisent pas. On peut être extrêmement créatif, et Kodak l'est, en ratant tout. Il faut être deux fois bon.
Alors, ça veut dire qu'on doit d'abord investir, Luc de Brabander, plutôt dans la recherche ou alors investir dans le capital humain, dans l'enseignement ?
Dans les deux. Dans les deux. C'est, je dirais... On est tous des enfants d'Aristote avec le tiers exclu. Hein. Est-ce que c'est blanc ou noir ? Est-ce que c'est régional ou mondial ? Non, il faut investir dans les deux. Il y a un double